La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour une émission enregistrée ici, à Malagar, la maison de François Mauriac, au deuxième jour d'une semaine consacrée au grand écrivain bordelais. Bordelais, il l'était de cœur, même si c'était parfois d'un cœur écorché par ce qu'il ressentait comme une forme d'exclusion de la part des grandes familles du quartier des Chartrons, cette caste si attirante aux origines cosmopolites, que formaient et que forment toujours les négociants en vin de Bordeaux. Mais c'est à Paris qu'il va devenir célèbre, sans jamais laisser de côté pourtant son inspiration landaise et girondine. Nous l'avons vu hier dans notre émission introductive. Plonger la plume dans la plaie, ainsi pourrait-on résumer la seconde partie de la vie de François Mauriac, qui a délaissé en grande partie la littérature pour se concentrer sur son travail de polémiste. Du Mauriac éditorialiste et de sa vision politique, marquée par la religion, nous parlerons demain avec Michel Vinocq et Philippe Dazébrun. Enfin, comme nous sommes ici en terre mauriacienne, nous en profiterons jeudi pour visiter la maison du grand écrivain. Ce sera avec Caroline Casseville et Claude Froimont, qui a été guide ici dans ses jeunes années et qui publie un livre intitulé « Chez Mauriac à Malagar ». Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous partons avec l'ambition folle d'aborder en une petite heure les grands thèmes mauriaciens. La famille, les femmes, la foi. Pour ce faire, trois invités, trois universitaires sont autour de cette table. D'abord, Jacques Monferrier, qui fut longtemps président du Centre François Mauriac de Malagar. Ensuite, Caroline Casseville, qui co-dirige les nouveaux cahiers François Mauriac. Et enfin, Pierre-Luigi Pinelli, qui enseigne la littérature à l'université de Gênes et qui a travaillé en particulier sur la question des femmes dans les romans de Mauriac. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs.
Né dans un port, n'est-ce pas? C'est extraordinaire combien, en prenant votre question au sens le plus matériel, j'ai été peu appelé par les ailleurs. Enfin, combien je pense au Beauvert qui a écrit sur ce sujet, mon ami Jean Laville de Miremont, qui a été élevé comme moi à Bordeaux. Moi, je n'ai pas été du tout comme lui, hanté par les départs. J'ai tout de suite été tourné beaucoup plus vers l'intérieur et beaucoup plus vers les êtres. Si vous voulez ma curiosité, allez vers les êtres. Et je me rends compte à quel point, quand j'étais enfant, et sans aucune préméditation, et sans même en avoir conscience, j'étais attentif aux autres, aux grandes personnes. Je me souviens de ce que ma mère me disait toujours, tu es toujours dans nos jupes, va-t'en, ne reste pas avec les grandes personnes. J'avais la passion des conversations des grandes personnes. Rien ne m'intéressait autant que de me faire oublier dans un coin d'écouter ce qu'on disait. Et j'ai gardé un souvenir très vif de tout le petit monde, surtout campagnard, dans lequel j'ai vécu, et dont une grande partie de mon œuvre romanesque est sortie.
Bonjour à tous les trois. Alors on vient de l'entendre. Pour François Mauriac, les sujets de ses livres proviennent quasi exclusivement de son monde intérieur et même, pourrait-on dire, de son enfance. Caroline Casseville, on peut dire que peu d'écrivains ont aussi bien décrit l'enfance que François Mauriac.
Oui, il est toujours question de ce petit monde d'autrefois, d'où il vient et auquel il revient. Et dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il y a aussi cette notion d'ailleurs et de port. Et tout de suite, j'ai pensé à Baudelaire. Baudelaire, Rimbaud, c'est ailleurs que d'autres cherchent à l'extérieur. Ils le trouvent dans cette ville, hein, Bordeaux, est l'histoire de mon corps, de mon cœur, de mon âme. Et ce Bordeaux qui lève des horizons d'ailleurs se décline pour Mauriac au sein de son territoire qui est au confluent de jadis et naguère entre les Landes et les vignes. Petit monde autrefois marqué par les femmes, bien sûr.
Donc vous diriez que c'est un premier thème, l'enfance. On pense à des romans comme Le Sagouin, par exemple.
Oui, L'enfant chargé de chaîne et L'enfant chargé de chaîne. Qui sont les premiers romans de Mauriac dans lesquels il parle de son enfance, de son adolescence. Mes premiers romans qui sont d'ailleurs un peu trop autobiographiques directement. C'est pour ça que Mauriac reviendra plus tard sur ses romans en disant qu'il les... Il les renie, ou en tout cas ce sont des premiers essais, et pour aller vers des œuvres accomplies comme Le Sagouin, qui cristallise une enfance extrêmement dure et violente, qui est fantasmatique bien sûr, puisqu'il n'a pas vécu ce type d'enfance.
Et puis ce qui est peut-être symptomatique, Caroline Casville, c'est que son dernier roman,
Un adolescent d'autrefois,
son titre le dit assez bien, est un retour sur son enfance, et Emma Taverne, qui est le roman posthume, qui n'a jamais été achevé, mais aussi en scène un jeune garçon qui ressemble au jeune François Mauriac. Jacques Montferrier, sur cette question de l'enfance, est-ce pour vous un thème en soi de la littérature de François Mauriac ?
C'est plus qu'un thème. Au-delà de la présence d'enfants, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a quand même quelques-uns, Caroline les a évoqués dans des romans. Au-delà de cela, il y a l'esprit d'enfance. L'esprit d'enfance qui, dans le cœur de François Mauriac, vient de très loin. Enfin, je ne suis pas psychanalyste et les psychanalystes seraient récusés ou ont été récusés par François Mauriac lui-même. Mais enfin, il est évident que sa relation avec sa mère... lui seul, seul homme, en quelque sorte, après la mort de son père, sa relation avec sa mère a inscrit en lui un bonheur qui va se traduire à travers ses lectures de l'Évangile et par un approfondissement tout au long de sa vie de cet esprit d'enfance qui, à mes yeux, détermine quelque chose de fondamental, qui, pour moi, représente ce qu'il peut y avoir peut-être de plus profond dans son évolution personnelle, au-delà de tous les tracas, au-delà de tous les problèmes, au-delà de toutes les difficultés, qui détermine une évolution et de la totalité de sa vie et de sa vie spirituelle.
Enfance, des jeunes gens dans ces romans, en particulier des jeunes garçons, des garçons solitaires, des garçons amoureux, des garçons sensibles. Comment sont-ils, Caroline Casville, ces jeunes gens qu'on trouve dans les romans de François Mauriac ?
Ils sont d'abord à l'image de l'image même que François Mauriac croit avoir de lui, c'est-à-dire l'enfant, c'est d'abord une difficulté d'être au monde. Ce que Jacques a très bien dit, c'est-à-dire cette dualité de vivre dans un monde d'adultes dont on pressent qu'il est à la fois fascinant et corrompu, et puis ce monde d'innocence et d'osmose que présente la nature, cette communion, et c'est la solitude. D'abord, donc l'enfance, c'est l'enfant solitaire qui se sent différent des autres enfants, et donc qui cherche à travers donc cette nature, alors nature humaine, c'est-à-dire d'autres enfants ou des gens qui lui ressemblent en tout cas, à exprimer ce déchirement d'être au monde et de dégradation future qui va arriver quand on va passer à l'âge adulte. Donc un autre, une solitude, le sentiment d'être différent, le sentiment déjà d'être inadapté à une société.
Et inadapté peut-être aussi à sa propre famille. On est ici à Malaga, dans ce qui était la propriété de famille de François Mauriac. Et dans les romans de Mauriac, eh bien, la famille est presque toujours le cadre dans lequel se passe l'action. Qu'on pense au mystère Frontenac, mais aussi à Génitrix ou à Thérèse d'Esquerou. C'est toujours la famille qui est en toile de fond de ces romans. De quelle famille s'agit-il, Caroline Casville ? À quoi ressemble-t-elle la famille dans les romans de François Mauriac ?
Là encore, c'est la famille de François Mauriac, c'est-à-dire c'est une famille bourgeoise, Alors, j'allais dire conservatrice, si ce n'est que c'est beaucoup plus compliqué que cela, puisque deux influences jouent entre l'influence maternelle et l'influence paternelle. Et c'est une famille aussi extrêmement pieuse, chrétienne, catholique, donc des valeurs traditionnelles. Mais ce serait complètement faux de s'arrêter à cela, puisque, comme vous l'avez dit, et comme Mauriac le dit lui-même, il épie ce monde d'adultes dans lesquels il voit déjà des contradictions. Et il entend ces secrets de famille, il entend cette famille qui se déchire dans la pénombre, dans le silence. Et c'est ce qui va constituer aussi un des nœuds de Vipère et un des nœuds familiaux.
Ah oui, alors là, le secret, c'est aussi un des thèmes de François Mauriac. Je voudrais vous poser à vous la question, Jacques Monferrier. Cette famille, est-ce qu'elle n'est pas avant tout une famille qui enferme chez François Mauriac ? À la fois, on aime beaucoup la famille, mais en même temps, on se sent pris dans cette famille comme dans une prison.
C'est possible, en tout cas, c'est l'image qu'il peut donner dans certains de ses romans, bien entendu. Cela dit, pour lui, même si cet aspect peut être repéré par l'observateur de l'extérieur, pour lui, c'est pas ainsi qu'il a vécu cette enfance dans la famille. Cet esprit d'enfance, bien sûr, il l'a construit sur une préservation qu'on peut considérer comme construite de façon un peu artificielle. Il a été éloigné de toutes les difficultés. Il raconte dans « Commencement d'une vie » ou dans « Mémoires intérieures », il raconte que il a eu une enfance préservée. Il a eu, dit-il, il emploie l'expression « une enfance préservée » et il garde de cette enfance l'idée d'un enchantement, quelque chose d'ailleurs, d'extérieur, en quelque sorte, au monde.
Mais pourtant, on a quand même l'impression que quand il décrit la famille, il décrit le lieu de l'incommunicabilité, l'endroit où on ne sait pas forcément bien se parler. Et on pourrait prendre comme exemple le Sagouin, que sans doute beaucoup d'auditeurs ont lu et ont peut-être encore en tête, où il y a une description d'une famille où le père ne sait pas parler à son fils. Il aimerait lui parler, mais il n'y arrive pas. Est-ce que c'est pas ça aussi la famille chez François Mauriac, Caroline Casville?
Oui, en vous écoutant, je pense en effet à ce déchirement. C'est-à-dire que ce qu'on n'a pas précisé, qui est quand même essentiel, c'est la perte du père. Et que cette dimension déséquilibre complètement la conception de l'enfance et de la famille. C'est-à-dire que il y a un déséquilibre dans l'identité même et la personnalité. Donc, dans le Sagouin, on voit cette violence extrême faite à un enfant, mais par la mère.
Par et sa propre mère, ce qui est quand même extraordinaire. C'est-à-dire une mère qui n'aime pas son enfant parce qu'il est un petit peu différent pour le coup.
C'est plus à l'extrême. C'est cette différence qui devient pour elle une monstruosité. Comment a-t-elle pu engendrer ce monstre? Et c'est finalement tout à fait la transposition d'une problématique d'idées et de réflexion de la part de Mauriac qui se transmet là dans cette histoire-là, c'est-à-dire que ce sagouin, c'est le monstre qui est en chacun de nous, mais c'est ce monstre qu'elle rejette et qui est aussi une part d'elle-même, hein, cette mère qui engendre cet enfant. Et ce père, puisqu'il y a très peu de couples dans les familles mauriaciennes, il y a un enfant orphelin de père ou de mère. Là, c'est exceptionnel que dans le sagouin, il y ait les deux parents. Et donc, déficience du père, qui est aussi un prolongement du fils. Donc, il y a ce monde lacunaire de la famille chez Mauriac.
Alors continuons d'analyser les personnages de François Mauriac et en l'occurrence parlons de Thérèse Desqueyrou.
On a beaucoup abusé de la fameuse déclaration de Flaubert, Madame Bovary, c'est moi. Dans quelle mesure pourrait-on dire, et on n'a pas manqué de le dire à votre propos, Thérèse Desqueyrou, c'est moi?
Dans une assez grande mesure, on pourrait dire, Thérèse Desqueyrou, c'est moi, mais dans une certaine mesure, n'est-ce pas? Dans une certaine mesure, Thérèse Desqueyrou, c'est moi, si je n'avais pas été un mari heureux, un père de famille heureux, quelqu'un dont la vie tout de même a pris la direction qu'il souhaitait, qui tout de même a eu Dieu dans sa vie, vous comprenez? Alors, quel sens je le dis, enfin, qu'il y a eu une espérance et qu'il y a toujours une espérance éternelle. N'est-ce pas, si vous voulez, c'est moi désespéré. Thérèse Escarrou, c'est moi désespéré, mais je ne suis pas désespéré.
Une archive de François Mauriac avec Jean Amrouche. Jean Amrouche qui n'hésitait pas à jouer un peu avec les lignes en posant des questions comme celle-là. Il y avait peut-être un peu de perfidie. Pierluigi Pinelli a comparé comme ça François Mauriac avec Thérèse d'Escarrou, qui est non seulement une femme, mais en plus une femme qui a tenté d'empoisonner son mari. Mais Mauriac accepte la comparaison. Alors vous, Pierluigi Pinelli, vous vous êtes en particulier intéressé, vous êtes italien, vous nous venez de Gênes, vous êtes intéressé aux femmes dans trois roman de François Mauriac, dont Thérèse d'Escarrou.
Alors justement, en ce qui concerne Thérèse d'Escarrou, moi je pense qu'on peut considérer la femme ou l'héroïne mythe des romans de François Mauriac. Et sur cette femme, il a écrit presque un roman fleuve, parce qu'il y a Thérèse d'Escarrou, et puis il y a Thérèse à l'hôtel, il y a justement Thérèse chez le docteur, et enfin, c'est le dernier manuscrit sur lequel je travaille, il y a La fin de la nuit. Et bon, cette femme, disons, mythique, par contre, a été imitée en Italie aussi. Elle a donné naissance à deux pièces très importantes dans les années 60.
Parce qu'on lit beaucoup François Mauriac en Italie ?
Alors, disons que François Mauriac en Italie a été lu beaucoup et beaucoup traduit entre les années 30 et les années 40. Puis il y a eu la guerre, comme on sait bien, et cela a laissé tomber, disons, la culture. Mais cela a repris entre 52, quand Mauriac gagne le prix Nobel, et les années 70. Et à partir de ce moment-là, disons qu'on étudie encore à l'école, au lycée, on lit les romans de François Mauriac, surtout Thérèse d'Escarrou.
D'accord. Alors justement, les femmes, autre thème oui. Mauriacien. Comment vous le voyez ce thème, Pierluigi
alors, Pinelli? Ce thème, disons, de la femme chez Mauriac. Alors moi, qui a travaillé sur le manuscrit de Génitrix, de Le désert de l'amour et dernièrement de La fin de la nuit, je vois qu'il y a, par exemple, dans le roman publié, une presque totale absence de la sexualité. Tandis que dans les manuscrits, par contre, Mauriac, de temps en temps, se laisse aller. Si vous voulez, je vous cite quelque chose que j'ai tiré de Génitrix. Alors, Mauriac, dans Génitrix, et puis le bif, il écrit, à propos de Mathilde, « Honteuse les nuits chaudes de ce qu'exigeait sa triste chair. » Donc, c'est tout à fait innocent. Bien, Mauriac ajoute dans la dernière entrevue avec Pierre Lost, il dit « Autrefois, nous avons vécu une époque très, très hypocrite. Il ne fallait pas que moi, chrétien, je froisse le lecteur, je froisse telle tendance. J'écrivais sur surveillance en quelque sorte et dans une grande atmosphère de méfiance. » Donc, vous voyez qu'on abolit même, disons, les choses les plus innocentes.
Caroline Casville, on disait que dans les familles décrites par Mauriac, on était enfermés. Est-ce que ce ne sont pas spécifiquement les femmes qui sont le plus enfermées dans les familles, dans ces romans ?
Oui, bien sûr, on pense à tous ces exemples. Alors, il faut se reporter à la société du temps. On est dans une société où, dans ce milieu de Mauriac, qui est un milieu, encore une fois, bourgeois, les femmes ne travaillent pas. Donc, quel est leur rôle ? C'est fondatrice de race, je pense à cet exemple, à cette citation de Mauriac. Bon, donc elles sont là pour assurer la pérennité des familles, l'éducation, donc un rôle qui est très contraint. Et donc leur identité de femme et leur propre désir sont toujours extrêmement contraint et frustré.
Et d'ailleurs, si Thérèse d'Escarrou empoisonne son mari, c'est précisément parce qu'elle se sent mal avec lui, parce qu'elle est d'une certaine manière contrainte par lui.
Oui, absolument. Alors là, Pierluigi a parlé, a dit, on ne voit pas la sexualité dans les romans de Mauriac. Si, on ne voit que la sexualité, même si on la voit en négatif, c'est-à-dire parce qu'il n'y a pas de sexualité assouvie heureuse. C'est-à-dire, on fait la haine à défaut de faire l'amour.
Rien jamais ne ferait taire cette voix terrible de sa mère. Rien n'éteindrait ses yeux méchants rivés sur lui, qui le rendaient conscient à la fois de sa maigreur, de ses genoux sales, de ses chaussettes retombées. Alors, Guillaume ravala sa salive, et pour désarmer son ennemi, essayait de fermer la bouche. mais la voix exaspérée éclatait, et il croyait l'entendre encore dans ce petit cimetière où il grelottait.
Va-t'en où tu voudras, mais que je ne te vois plus.
À cette même heure, Paul avait allumé le feu dans sa chambre et songeait.
On ne peut pas se faire aimer à volonté. On n'est pas libre de plaire. Mais aucune puissance sur la terre ni dans le ciel ne saurait empêcher une femme d'élire un homme et de le choisir pour Dieu. Lui-même, cela ne le concerne pas, puisque rien ne lui est demandé en échange. Elle est résolue de mettre cette idole au centre de sa vie. Il ne lui reste rien d'autre à faire que d'élever un autel dans son désert et de le consacrer à cette divinité frisée. Les autres finissent toujours par implorer leur Dieu, mais elle est résolue à ne rien attendre du sien. Elle ne lui dérobera que ce qu'on peut prendre d'un être à son insu. Miraculeux pouvoir du regard sournois et de la pensée incontrôlable. Peut-être un jour lui sera-t-il donné d'oser un geste. Peut-être ce Dieu souffrira-t-il le contact d'une bouche sur sa main.
Un extrait donc du Sagouin dans lequel on comprend, Jacques Monferrier, que au fond, si la mère du Sagouin est si dure avec lui, c'est peut-être tout simplement parce qu'elle est elle-même très malheureuse dans cette famille. Le mariage a été arrangé, comme pratiquement toujours chez François Mauriac. Et il y a donc cette attention au destin des femmes, ces femmes qui du coup se vengent d'une manière ou d'une autre, soit en empoisonnant leur mari, soit en étant de très mauvaises mères, des mères haineuses envers leur fils.
Oui, vous évoquez la condition féminine. Mais la condition masculine n'est pas gâtée non plus, parce que les hommes sont des brutes, des lâches, des abrutis ou des imbéciles. Et on comprend également qu'il ne peut pas y avoir d'union heureuse dans ces conditions-là. Enfin, c'est l'opposition du chasseur de palombes et de la femme intellectuelle.
Il n'y a aucun couple qui soit sauvé chez François Mauriac dans aucun de ses livres.
Ah, donc vous parlez des romans. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait aucun couple qui ne soit pas sauvé. Parce que au-delà des crises, au-delà des difficultés, au-delà des problèmes, il peut y avoir une rencontre tout de même. Jusque dans le nœud de vipère, par exemple. Est-ce qu'on ne s'achemine pas vers une rencontre? Ben, certes, elle est posthume. Quand Louis, le héros du nœud de vipère, rencontre sa femme, c'est trop tard, parce que mais ça se fait quand même. Alors, ça ne signifie pas nécessairement que le désespoir soit définitivement inscrit.
Pierluigi Pinelli.
Oui, alors, disons que moi, dans un cours magistral à l'Université du Gênes, dernièrement, j'ai traité le thème « La crise du couple » dans le roman de François Mauriac. Et je dirais que les filles étaient tout à fait prises. Et alors, moi, je donnais les exemples.
Pas les garçons.
Oui, non, pas les garçons, parce qu'il y en avait peu, parce que moi, je suis à fac de lettres, donc il n'y a pas beaucoup de garçons. Et alors là, moi, je marchais parmi les rangs comme ça, en racontant cette crise. Et alors, la fille disait, bon, tu sais, André, c'est la même chose. Et Jean, c'est la même chose. Voilà ce qui se passe. Moi, je trouve que le couple, le seul couple secondaire, et heureux, ça existe dans le désert de l'amour, et c'est la fille du docteur Courrèges et son mari. Parce qu'elle accepte totalement ce que son mari pense, ce que son mari dit, ce que son mari fait.
Alors on peut parler justement du désert de l'amour, oui, et de son héroïne Maria Cross, Pierluigi Pinelli. Vous, oui, pouvez nous redire un peu en deux mots quelle est oui, l'intrigue de ce,
oui,
roman.
Alors disons que, à mon avis, mais pas seulement à mon avis, même Rivière l'a pensé comme moi, Le désert de l'amour, c'est le plus beau roman de François Mauriac. Étant donné qu'il y a beaucoup de personnages en train d'agir, tandis que dans les autres, il n'y a que l'un ou l'autre et tout ça. Alors, on retrouve chez Maria Cross, moi j'ai fait un article à ce propos, on retrouve le problème que Mauriac tire de Racine, c'est-à-dire Phèdre. Parce que là, il y a un trio, d'abord, qui est le docteur Courrèges, son fils Raymond et Maria Cross. Puis quand Raymond retrouve Maria Cross après, disons, presque une vingtaine d'années, comme ça, et il découvre qu'il y a une autre triade qui s'est formée, c'est-à-dire que Maria Cross est tombée amoureuse du fils de son amant.
C'est ça.
Et donc là aussi va se recréer ce type de réalité.
Alors on va écouter un extrait justement du désert de l'amour.
Cette femme entra. Un chapeau cloche supprimait le haut du visage et ne laissait voir que le menton où le temps inscrit l'âge des femmes. La 40e année avait touché de ci, de là ce bas de figure, tiré la peau, amorcé un fanon. Sous les fourrures, le corps devait être ramassé. Aveugle, comme au sortir du toril, elle s'arrêta au seuil du bar étincelant. Lorsque la rejoignit son compagnon qu'une dispute avec le chauffeur avait retenue, Courrèges, sans le reconnaître d'abord, se dit « J'ai vu quelque part cette tête-là. C'est une tête de Bordeaux. » Et soudain, un nom lui vint aux lèvres, tandis qu'il observait cette face cinquantenaire comme élargie par la satisfaction d'être soi. Victor Laroussel. Le cœur battant, Raymond examina de nouveau la femme qui, ayant vu qu'elle était la seule avec un chapeau, l'enleva soudain et secoua face au miroir ses cheveux frais coupés. Des yeux apparurent, grands et calmes, puis un front large mais délimité strictement par les sept pointes jeunes d'une chevelure sombre. Dans le haut de ce visage s'était concentré tout ce que cette femme recelait de jeunesse survivante. Raymond la reconnut, malgré les cheveux retranchés, le corps épaissi et cette destruction lente partie du cou et qui montait vers la bouche et les joues.
Caroline Casville, Maria Cross, c'est une héroïne idéale typique, vous diriez, de François Mauriac ? Ou pas ?
Alors, surtout revenir sur le nom, Maria Cross, c'est la croix. Très révélateur. Marie est crucifiée. Et dire aussi que c'est la genèse, parce que Pierluigi le sait encore mieux que personne ici, c'est la genèse de Thérèse d'Esquerou. Donc, qui préfigure cette héroïne phare, si on peut dire, de François Mauriac. Et que, également, les conditions de rédaction de ce roman se font au moment où Claude, le fils aîné de François Mauriac, est malade. Et François Mauriac éprouve finalement une certaine forme de culpabilité parce que il montre quoi dans ce roman ? La rivalité entre un père et un fils pour une femme. Donc, il a très peur, lui, croyant, il croit aussi au signe du destin, il a très peur que finalement son fils, qui est malade à ce moment-là, paie cette espèce de fracture qu'il est en train de décrire. Et bon, évidemment, c'est une maladie qui n'est pas grave et Claude se remettra parfaitement. Mais il y a cette dimension de jeu entre la réalité et la fiction qui est toujours très frappante dans l'univers de Mauriac qui disait « Seule la fiction ne ment pas ».
Alors, autre thème qu'on peut retrouver chez François Mauriac dans la plupart de ses romans, c'est la question des classes sociales. Est-ce que vous diriez, Jacques Monferrier, qu'on est avec François Mauriac dans une peinture de la bourgeoisie ? Alors, c'est la bourgeoisie par rapport à l'aristocratie, la bourgeoisie par rapport à la classe ouvrière, par exemple, par rapport aux instituteurs aussi, la classe intellectuelle, mais sans doute moins argentée que lui-même. Est-ce que les classes sociales sont un thème pour vous chez François Mauriac ?
Bon, évidemment, c'est un thème qui saute aux yeux. C'est peut-être aussi une difficulté par rapport à la lecture de François Mauriac aujourd'hui. La question se pose toujours.
Pourquoi
toujours,
une difficulté ?
C'est une difficulté parce que le monde dans lequel vivent les classes sociales décrites par François Mauriac à travers ses romans, est un monde aussi disparu que le monde du 19e siècle, etc. À quoi on peut toujours répondre, on continue à lire Balzac, on continue à lire Flaubert, on continue à lire l'abbé Prévost, mais enfin, plus on recule dans le temps, plus c'est difficile. C'est le problème de la permanence de la littérature. Il faut donc traverser cette peinture de la société pour arriver à des choses plus profondes. C'est la raison pour laquelle, pour répondre à votre question sur l'importance de la peinture sociale, elle est évidemment essentielle, elle aide à comprendre, mais il faut traverser cette peinture pour arriver à des choses plus secrètes et plus profondes.
Pierluigi Pinelli.
Oui, alors, donc, tout le monde sait que Mauriac appelait l'aristocratie du bouchon la bourgeoisie bordelaise. Et moi, je suis totalement d'accord avec mon collègue Jacques Monferrier, en disant que justement ce type de thème a presque complètement disparu aujourd'hui dans le monde moderne. Et on n'arrive pas à, comment dirais-je, à le comprendre pour les jeunes gens qui sont en train de lire les romans de François Mauriac, ils ne comprennent pas cette espèce de haine. Et il faut dire aussi que son frère, Pierre, dans le petit livre qu'il a écrit sur son frère, il dit que c'était quelque chose... Enfin, c'était Mauriac qui se posait en dehors de cette société. Ce n'était pas cette société qu'il mettait à l'écart. Et c'est lui qui s'isolait vraiment de cette société.
Alors, Caroline Casville fait nom de la tête. Un mot là-dessus, Caroline Casville, et puis ensuite on s'interrogera sur le thème de la foi, qui est quand même le grand thème, je crois, qu'on retrouve partout dans les romans de François Mauriac.
Non, je suis d'accord et pas d'accord. C'est-à-dire que là, on en vient à deux points qui me semblent extrêmement importants à soulever, c'est-à-dire que de dissocier l'œuvre du romancier avec l'œuvre du journaliste. Je crois que l'œuvre de Mauriac, elle est une, et que dans son journalisme, on voit précisément à quel point Mauriac s'intéresse à toutes les couches sociales de la société. Et un autre point de contextualisation, Mauriac dépeint le monde d'où il vient, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas du tout attentif au monde dans lequel il vit, par ailleurs, en dehors de Malaga, de Bordeaux. Et également, son œuvre est traversée par l'attention aux gens de peu. Et une dernière idée notion qui me semble importante, on est dans une époque, aujourd'hui, vous voyez comment on peut traverser une couche sociale vers une autre. On les traverse, mais on les traverse pas vraiment. C'est-à-dire qu'on est dans une espèce de société où on a l'impression qu'on peut dialoguer avec toutes les couches sociales. Est-ce que c'est vraiment vrai à cause d'Internet, etc. Est-ce que c'est profondément vrai? Je ne le crois pas. Je crois qu'on est encore plus crispé dans chacun de nos couches sociales. Et à l'époque de François Mauriac, on changeait pas de catégorie sociale. C'était très cloisonné.
Mais il y a une attention chez lui et une empathie finalement avec toute la société.
Absolument.
Et y compris dans les romans.
Absolument. Et avec le monde agricole, les ouvriers ici, il était plongé dans la société de son temps avec toutes les couches sociales, avec bon, plus ou moins de facilité à dialoguer, mais...
Vous écoutez toujours la Compagnie des auteurs sur France Culture et nous parlons de François Mauriac ici à Malaga, sa maison. Jacques Montferrier, nous égrenons les uns après les autres les grands thèmes de François Mauriac et il faut donc en arriver à ce qui, je le disais, est sans doute l'un des thèmes les plus importants et qui est le thème de la foi. Est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'on peut même réduire à ce mot de thème la foi qui en fait irrigue non seulement les romans de François Mauriac, mais aussi toute sa vie, Jacques Montferrier.
Mais je crois que dans votre question, il y a également la réponse. Mais c'est... Peut-être faut-il la commenter une seconde. C'est effectivement, c'est plus qu'un thème, c'est aussi un thème, c'est évident, ce qui est un thème, c'est la religion. La foi, en revanche, c'est quand même autre chose. La religion telle qu'il est exprimé dans les romans de François Mauriac, et on rejoint là les problèmes sociaux, cette religion, elle est le fruit de la religion catholique du XIXe siècle, elle est représentative d'une certaine vision du monde, de la société, d'une certaine interprétation des textes de l'Église, etc. Ça, c'est la religion. Et par rapport à cela, François Mauriac a pris une position de nombreuses fois.
Et notamment dans ce roman La Pharisienne, oui. Dans lequel lui qui est extrêmement croyant se détache de la religion telle qu'elle est pratiquée par beaucoup de bourgeois notamment. Et il considère que la foi, ça n'est pas bien souvent la religion comme elle est pratiquée. C'est autre chose.
Je crois qu'un des éléments fondamentaux de la vie et de l'œuvre de François Mauriac, c'est progressivement la découverte de la difficulté de se situer dans le monde sans juger. La pharisienne est certes condamnée, le pharisaïsme est condamné, mais en même temps, c'est le récit d'une aventure spirituelle qui montre comment, au-delà du pharisaïsme et à travers le pharisaïsme lui-même, on peut arriver à une vision spirituelle qui déborde justement les problèmes de la religion pour arriver à une véritable foi et une véritable rencontre avec une réalité mystique.
Parce qu'on peut rappeler que la pharisienne, le personnage de la pharisienne, c'est un personnage de tyran qui est capable de détruire des amours de paroissiens fervents ou de jeter à la porte de son institution de charité, car elle fait la charité. Elle peut jeter à la porte des pauvres parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à son autorité. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on appellerait de l'intégrisme, en fait. C'est ça, peut-être, qu'il dénonce.
Ça, c'est la position extrême, et effectivement, c'est cela qu'il dénonce, sans aucun doute. C'est, dans sa vision de romancier, c'est une façon de mettre en scène des situations terribles. On a ça dans la pharisienne, la mère du Sagouin, c'est aussi une pharisienne, d'un certain point de vue. Ça, on trouve ce thème partout, c'est évident. Et en même temps, on aurait tort de penser que, pour Mauriac, cela signifie que le monde se divise entre les pharisiens et ceux qui ne le sont pas. Tout le monde est pharisien. Mais dans les romans, le romancier, lui, il est là pour grossir les traits et faire en sorte de faire apparaître ce qu'est le véritable pharisaïsme.
Pierluigi Pinelli.
Alors moi je voudrais élargir un tout petit peu le problème de la religion en disant par exemple que Mauriac a fait des voyages en Italie et 3 voyages à Florence où il est devenu l'ami du maire de Florence qui vivait vraiment dans son administration une vie religieuse s'appelle la Pira, d'accord? Et en plus le gros problème que Mauriac a abordé, c'est-à-dire le problème des prêtres ouvriers. Il s'est vraiment battu contre le pape à cette époque-là pour soutenir la réalité des prêtres ouvriers.
Caroline Casville, on parle de religion, mais sans doute faudrait-il parler maintenant justement de la foi et de la grâce qui sont là le versant positif et le versant qui irrigue le plus les romans de François Mauriac.
Oui, alors, pour revenir quand même une seconde sur ce qui vient d'être dit, je crois que c'est là. Il y a plusieurs choses chez Mauriac. D'abord, son rapport à la foi et à la religion, c'est le fait que, contrairement à des convertis au catholicisme, lui, il est né dans cette religion. Et donc, il aimerait, y être venu comme si c'était un terrain vierge à l'origine. Donc, il a envie d'avoir la vraie foi des convertis, parce que c'est une foi pure, en quelque sorte. Donc, il y a d'abord cet élément-là. Ensuite, vous parliez tout à l'heure d'intégrisme. Ça me fait peur aujourd'hui, avec les connotations que l'on peut mettre derrière ce mot. Je pense que c'est plutôt une radicalisation de la religion, de la pratique religieuse, qu'elle se situe au niveau de n'importe quelle religion monothéiste ou ça me semble important. C'est la lettre qui prime sur l'esprit. Et la foi pour Mauriac, c'est quelque chose qui est de l'ordre du recueillement intérieur et qui rejoint précisément cette analyse de soi, cette auto-analyse et ce jugement, ce premier jugement qu'on peut avoir sur soi-même pour être un homme ou une femme qui tend vers le bien ou qui tend vers le mal. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je
veux exprimer. Tout à fait. Et la grâce alors ?
Alors la grâce, là on en vient au débat pascalien, hein, c'est-à-dire et au jansénisme de Mauriac via sa mère. La grâce ne dépend pas des hommes. La grâce est un mystère, fait partie de ces voies impénétrables.
Et nous parlons toujours de François Mauriac dans cette compagnie des auteurs. François Mauriac qui a été bien attaqué par Sartre, ce dont il a beaucoup souffert. Il faut dire que l'un et l'autre ne représentaient pas tout à fait les mêmes courants, ni littéraires, ni de pensée.
Ce qui me frappe, c'est l'invasion de la littérature par la philosophie. Aujourd'hui, je veux dire que c'est vraiment l'époque de Jean-Paul Sartre. Et quand je dis cela, ne croyez pas du tout qu'il y ait la moindre parole, que je donne le moindre son péjoratif à ma réflexion, car je sais tout ce que l'on doit à Sartre et tout ce qu'il a d'admirable.
Oui,
mais je veux dire que notre génération, la génération littéraire actuelle, est dominée par la philosophie. Je veux dire que il n'y a plus de pommiers qui donnent des pommes, ni de pruniers qui donnent des prunes. Il y a des pommiers qui réfléchissent sur la manière de donner son fruit. On est actuellement axé sur la technique, sur la recherche, comment les choses se font, comment le livre se fait. Les critiques littéraires eux-mêmes, comme Lanchot par exemple, sont essentiellement des philosophes. Tout le monde est extrêmement intelligent aujourd'hui. Moi, je me trouve extrêmement bête au milieu de mes cadets. Mais je trouve qu'ils sont trop intelligents.
Et toujours, tout de même, cet humour propre à Mauriac pour souligner à quel point l'époque de Sartre a pu mépriser le roman. Caroline Casville, ouvrons un petit peu cette problématique. Ne nous contentons pas des thématiques et replaçons François Mauriac dans son contexte, dans le contexte littéraire de l'époque. Mauriac qui n'est pas, allez, disons-le, un intellectuel, un cérébral au sens propre. Il est avant tout un romancier et il le revendique. C'est quelqu'un qui est davantage dans le sensible que dans la théorie.
Oui, alors sensible et théorie, je crois que c'est un écrivain d'abord, romancier, il écrit toute sa vie et il écrit en même temps d'abord la poésie qui est vraiment fondatrice de son univers et voilà, il écrit dans un journal, une page de roman, etc. Donc c'est le rapport à l'écriture et c'est le rapport entre une éthique et une esthétique. C'est-à-dire ce qu'il reproche là à Sartre ou à une critique littéraire, c'est-à-dire c'est de ne plus être dans une littérature. C'est une littérature qui s'assèche, qui se dessèche puisqu'elle ne montre plus des émotions. Donc la littérature est sensible comme connaissance du monde, un rapport au monde qui est perceptible par les sens, par l'émotion et non pas par l'intellect froid, abstrait. C'est ce qu'il dénonce à travers... On pourrait dire beaucoup d'autres choses sur Mauriac et Sartre.
Mais... On peut parler quand même de cette phrase de Sartre. Dieu n'est pas un artiste, monsieur Mauriac non plus. Quel est l'enjeu au fond derrière tout ça, Caroline Casville?
Un enjeu métaphysique, un enjeu éthique. C'est-à-dire que pour... qui est d'ailleurs presque duel. Pour François Mauriac, l'essence précède l'existence. C'est-à-dire qu'il y a une connaissance du monde... Il y a une vision du monde, il y a un avant, un après, et il y a un sens à l'existence. Prédéterminé, peut-être, probablement. Pour Sartre, c'est l'inverse. Mon existence est prouvée au fur et à mesure que je la vis.
Donc c'est à la fois philosophique, mais c'est aussi purement littéraire, parce que Jacques Montferrier, quand on a le point de vue de Dieu sur ses personnages, on n'écrit pas le même livre que quand on laisse ses personnages faire un petit peu ce qu'ils voudraient.
Oui, alors on a beaucoup écrit sur cette question, qui peut paraître assez artificielle aujourd'hui, parce que c'est un débat qui a été lancé par le fameux article de Sartre. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que derrière la question de technique littéraire, parce que c'est de la technique finalement, il y a...
Technique au service d'une idée, d'une façon de voir la littérature.
Technique au service d'une façon de voir la littérature, c'est vrai. Mais derrière cela, il y a une certaine vision du monde... que Mauriac a essayé de transmettre. Sa difficulté, ça a été de ne pas trahir ce qui lui paraissait essentiel dans sa foi. On revient au problème de la foi, qui est quand même l'élément fondamental. Parce que tout à l'heure, vous parliez de la société et du pharisaïsme, mais ce pharisaïsme, François Mauriac lui-même le perçoit dans sa propre existence. Enfin, je sais si...
C'est ce qui le rend attachant, d'ailleurs.
Et en même temps, c'est ce qui le rend attachant. Je crois que une littérature sans contradiction n'est pas une bonne littérature. C'est ce qui fait que Mauriac n'écrit pas des livres pour les jeunes filles bien pensantes et que ça a été mis en cause.
Pierluigi Pinelli.
Oui, alors, à partir, moi je pourrais dire ça, c'est-à-dire que justement, Sartre reproche à Mauriac de diriger la destinée de ses personnages. Et alors là, je vais vous raconter quelque chose. Un de mes amis qui vient de décéder malheureusement était là. Il était normalien sup à Paris au moment où Sartre a fait cette conférence. Et alors moi, je lui ai posé le problème. Vous les étudiants de l'école normale sup, qu'est-ce que vous avez pensé? Lui, il m'a répondu sincèrement. Il a dit, c'était quelqu'un qui voulait s'affirmer. Et il devait attaquer un personnage très important, déjà à cette époque-là, comme François Mauriac. Voilà. Ça, c'est un témoignage.
Mais on peut aller un peu plus loin et se poser la question, est-ce que pour vous, François Mauriac écrit des romans à thèse ou en partie à thèse?
Alors, disons qu'on peut trouver quelques romans, entre guillemets, disons, à thèse. Mais à mon avis, c'est bien ce que mon collègue, disons, Montferrier et Caroline, qui sur cette question est celle qui a écrit davantage. Et donc, mais en général, non, c'est vraiment c'est sa façon de s'exprimer au niveau d'écrivain et au niveau de romancier.
Caroline Casville.
Oui, en fait, ce dont il est question là, c'est l'omniscience, c'est-à-dire la position du romancier par rapport à ses personnages, et donc par transposition pour Sartre, il veut montrer qu'il n'y a pas de dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un écrivain qui sait à l'avance ce que pensent ces personnages, ce qu'ils éprouvent, et c'est donc des questions qui sont de questions de presque de politique générale ou d'engagement dans un monde, dans une société, de compréhension de la société qui est différente. Hein, est-ce qu'il y a un dieu ou pas qui préside et qui précède à l'univers dans lequel nous vivons?
Eh bien non, je ne suis pas content de mon œuvre. Il y a, si vous voulez, dans chacun de mes livres, 20, 30, peut-être 40 pages, où j'ai le sentiment de m'être un peu approché de ce que je cherchais. En vérité, je me suis souvent dit que si je ne me suis jamais engagé dans ce qu'on appelle un roman fleuve, si je n'ai jamais essayé d'écrire des ouvrages comme Les Hommes de bonne volonté, par exemple, c'est que, après chaque livre, j'ai toujours eu le sentiment de quelque chose qui n'était pas ce que j'avais voulu faire. Et j'ai toujours eu envie de recommencer à neuf, de partir de zéro. Et c'est ainsi que tous mes livres sont des tentatives vers une recherche que je ne crois pas avoir atteint.
François Mauriac qui dit qu'il n'est pas content de son œuvre dans cette archive. Il n'a pas su écrire de grands romans fleuves. Caroline Casville, est-ce que... pour vous, il y a une incapacité, c'est celle qu'il relève lui-même?
Oui, alors, deux choses encore une fois de contextualisation, c'est-à-dire qu'à l'époque, la mode est au roman fleuve. Donc Mauriac se sent un petit peu à contre-courant de ce grand courant, de ce grand flux d'écriture, et en même temps, il écrit vite, et il dit qu'il écrit en un mois, deux mois, et il est obligé de se relire et de faire taper par sa femme ses manuscrits. Bon, en même temps, le format de la concision classique, elle est là. Le modèle du roman de François Mauriac, c'est le théâtre de Racine, c'est la tragédie. Et donc, c'est cette forme de concision dans la littérature et cette écriture ciselée. Donc, je pense que ça, c'est un premier point. Et la deuxième chose, c'est qu'en effet, François Mauriac continue à écrire parce qu'il n'est pas heureux et qu'il attend un idéal d'écriture auquel il ne parvient pas.
Vous écoutez La Compagnie des auteurs, nous parlons de François Mauriac, ici à Malaga, où se tiennent les vendanges de Malaga. Et comme nous ne faisons pas les choses comme d'habitude, puisque nous sommes à l'extérieur, nous allons, au lieu de couper l'émission par la chronique en compagnie des revues, eh bien nous allons achever cette émission par cette chronique, avec également un chroniqueur tout nouveau pour nous, c'est Jean-Claude Guibaud. Vous êtes ici aux vendanges de Malaga. Bonjour.
Bonjour.
Et vous avez dirigé, présidé ce centre François Mauriac de Malaga pendant de nombreuses
pendant cinq ans.
Alors vous savez, d'habitude, en compagnie des revues, on demande à des journalistes de nous parler de leur sommaire. Et vous allez nous parler aujourd'hui non pas d'un sommaire d'un journal qui aurait pu être Sud-Ouest, par exemple, auquel vous avez collaboré pendant de nombreuses années, mais vous allez tout simplement nous parler de votre rapport à François Mauriac.
Il doit beaucoup à mon amitié avec Jean Lacouture. Jean Lacouture a été mon éditeur au Seuil, puis ensuite je suis devenu son éditeur. On a inversé les rôles, et donc j'ai été notamment l'éditeur du livre de Jean Lacouture sur Mauriac. Et ce livre, d'ailleurs, que j'ai trouvé magnifique, je pense même que c'est son meilleur livre de toutes ses biographies. Il en a écrit une quinzaine, je crois que j'ai été l'éditeur de presque toutes. C'est un livre magnifique.
Et un très gros livre, parce que la vie de François Mauriac est impressionnante, elle est très riche.
J'ai été scandalisé des attaques qui ont surgi quelques années après, des gens qui ont reproché à Jean Lacouture de ne pas faire état largement de l'homosexualité de François Mauriac. Et ça a été dit de manière tellement sotte, parce que c'était délibéré de la part de Jean de le suggérer, mais de pas s'étendre là-dessus. Nous en avions souvent parlé ensemble, et honnêtement, voilà... Pour le reste, c'est vrai que Jean Lacouture, je lisais le bloc-notes, parce que je suis vieux déjà, je me souviens du bloc-notes dans l'Express et dans le Figaro, je le lisais, je garde même des souvenirs assez émus de certains bloc-notes, mais comment vous dire, c'est Jean Lacouture qui m'a aidé à prendre conscience de l'importance du travail de Mauriac comme journaliste.
Donc Jean Lacouture et François Mauriac, quand vous y pensez, à quel François Mauriac pensez-vous quand vous vous promenez ici dans le parc de Malaga, quand vous allez dans la maison de François Mauriac, et finalement qu'est-ce qui vous touche le plus, Jean-Claude
Guibaud ? Je pense au François Mauriac combatif, dissident, capable d'écrire contre les siens. C'est-à-dire capable d'avoir ce courage, comme Bernanos d'ailleurs, à propos de la guerre d'Espagne, même s'il l'a fait de manière moins flamboyante et un petit peu en retard, d'écrire contre le monde catholique, d'où il sortait, et d'être à propos de colonialisme. En effet, on a parlé du Maroc, etc., de sa relation avec les Barras, avec la famille Barras, qui a fait que François Mauriac a été capable d'être anticolonialiste dans les colonnes du Figaro. Il y avait toujours ce côté provocateur. Il a été capable d'être gaulliste dans les colonnes de l'Express, qui n'était pas gaulliste, le moins qu'on puisse dire. Donc il y a chez François Mauriac cette combativité que je trouve... On m'a demandé un jour de faire un parallèle entre Albert Londres et François Mauriac sur le thème de la plume dans la plaie. Et je pense que François Mauriac a eu le courage souvent de porter la plume dans la plaie. Et puis, si vous voulez en avoir des preuves étonnantes, je vous rappelle que en 2004... un livre est sorti qui s'appelle « D'un bloc-notes à l'autre ». Et c'est notre ami Jean Touzeau qui a réuni, tenez-vous bien, parce que quand François Mauriac a publié son bloc-notes sous forme de livre, il a fait un choix. Il a écarté certaines... Et il y a eu cette idée géniale de publier tous les bloc-notes que François Mauriac avait écartés. C'est un gros livre de 800 pages et qui donne une ouverture sur pourquoi il a écarté certains bloc-notes. Quelquefois, c'est pas... Voilà, parce qu'il s'est trouvé un peu trop méchant. Par exemple, sur Roger Nimier ou sur Poire Delpech, il a été féroce. Sur le MRP, sur le Meurepeu, comme il disait, il a été féroce, etc. D'autres fois, c'est pour des raisons politiques ou des raisons. Mais en tout cas, cet éclairage montre à quel point Mauriac a constamment porté la plume dans la plaie et a été capable d'écrire. C'est le vrai courage. D'écrire contre les siens.
Et on n'attendait pas moins de vous, Jean-Claude Guibaud, que votre Mauriac soit le Mauriac journaliste. Merci beaucoup à vous. Merci également à Caroline Casseville, Jacques Monferrier et Pierluigi Pinelli. Je vous propose, comme chaque jour, de terminer cette émission par un peu de poésie. Jacques Bonafé.
Bonjour. Nous nous sommes dit que nous passions la semaine sur Art poétique de Jeanne Guivic. Hier, nous terminions sur J'ai l'habitude de me considérer comme vivante avec les racines, principalement celles des chênes. Comme elle, je creuse dans le noir et j'en ramène de quoi offrir du travail à la lumière. La suite. Aujourd'hui, c'est le jour du soleil. Il n'est pas triomphal. Il n'est pas solennel, il est content d'être soleil. Toutes les choses se plaisent à la définition qu'elles se donnent. C'est le jour où le soleil écrit son poème. Mon poème est la cathédrale, quelque part hantée. Ils sont debout, tendant leurs pointes, à la verticale, vers le haut, accueillant qui vient apporter son soi-même, s'essayer à grandir. Le chant peut être silence. Le silence peut exister pour qui chante, pour lui et pour tous, car il porte le chant à travers les horizons. Eugène Guivic, prénom merveilleux, Eugène. Quand j'étais gosse, j'entendais parler de l'oncle Eugène. Petit à petit, c'était devenu oncle Gène. Prénom génétique. Guivic est marqué par cette punition que lui donne à sa mère d'écrire une lettre à l'assistance publique en demandant au directeur de venir chercher cet enfant qui s'était mal conduit. Il était allé jusqu'au bout de la rédaction de cette lettre, l'avait fermée et mise à la poste. Et il a pu considérer que c'était une amorce au poème. Je suis comme l'eau qui doit obéir. Je suis comme les nuages qui doivent aller et tomber en pluie. Tu voudrais bien avancer dans ton poème comme un ruisseau, sinueux, pas rapide, et tu trembles de devenir comme un étang où tu pourrais, stagnant, ne plus t'y reconnaître. Il n'y a pas dans ce monde que les étangs. Pourquoi les voir, les chercher partout, y penser tellement? À quoi ça sert d'avoir tant écrit sur eux, et sans savoir pourquoi? Toi, tu regardes le corbeau. Tu t'intéresses à ce qu'il fait sur les chaumes devant ta fenêtre. Lui, rien ne l'oblige. Il ne te regarde pas écrire. Je suis comme le lierre, j'aime grimper. Mais je n'ai pas de tronc, de mur où me coller. Pourtant il me faut grimper, alors que faire? Je grimpe, même si ce n'est qu'en moi. Ce n'est pas facile d'être un mur, tout seul, entre deux propriétés, de temps en temps, le vent, un oiseau. Le mur ne peut écrire qu'au ciel, au tilleul. Mais il sait, lui, qu'il écrit en incluant sa base.
J'entends parler de Paradise Lost, ou du profil gracieux et anonyme qui tremble dans les soleils de Shakespeare.
Jacques Bonafé, donc, pour clore, comme chaque jour, cette compagnie des auteurs. Un grand merci à mes invités d'aujourd'hui, Jacques Monferrier, Pierre-Luigi Pinelli et Caroline Casville, pour ce panorama des grands thèmes de François Mauriac. Un grand merci également au Centre Malagar qui nous accueille toute cette semaine dans la maison donc de François Mauriac, maison que nous visiterons d'ailleurs jeudi. Ce sera de nouveau avec Caroline Casville ainsi qu'avec Claude Froimont. Cette émission était réalisée par Laurence Millet. À la technique, il y avait Hervé Dubreuil et Alexandre James. À la préparation, Corinne Amar, Didier Pinault, Anne-Vanessa Prévost et Eva Lesseau. Demain, c'est donc le Mauriac engagé qui retiendra notre attention et dont nous parlerons en compagnie de Michel Vinoc et de Philippe Dazébrun. Mais tout de suite, sur France Culture, vous avez rendez-vous avec La méthode scientifique par Nicolas Martin. Très bon après-midi à toutes et à tous.